Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie Desclèbes, c'est moi, et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants et qui est disponible dans les librairies en ligne à partir du 4 mai. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, je rencontre François Taddeï dans les locaux du Learning Planet Institute pour parler du système éducatif en France, de ses limites et des chantiers prioritaires à entreprendre pour accompagner au mieux nos enfants aux évolutions du monde de demain. Quelle chance j'ai eu d'échanger avec cette grande personne de l'éducation en France. Nous avons parlé d'intelligence collective, de soft skills, des machines, de sociétés apprenantes et de nombreuses autres réflexions de François sur l'apprentissage au XXIe siècle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour François.
Bonjour.
Merci de m'inviter aujourd'hui au sein du Learning Planet Institute, un centre de recherche qui se positionne, je cite, comme un acteur majeur de la société apprenante. Vous questionnez les pratiques éducatives et les méthodes d'apprentissage, notamment à travers votre ouvrage « Apprendre au XXIe siècle » que j'ai lu il y a quelques temps et que j'ai adoré. Et c'est aussi pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Mais il faut le dire, vous n'avez pas toujours travaillé autour de l'éducation. Et j'aimerais ainsi comprendre au travers de votre parcours ce qui vous a amené à l'éducation et aux réflexions sur nos façons d'apprendre.
Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je pense que j'aurais pas autant d'intérêt pour l'éducation si j'avais pas eu d'enfant. Je pense qu'on est tous des apprenants, donc j'ai apprécié, je dirais, le système éducatif, pour pas utiliser d'autres verbes. Mais je me suis rendu compte en ayant des enfants que le système avait relativement peu évolué depuis ma propre scolarité et qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient récurrentes. Par exemple, on m'a dit en tant que parent, à propos de mon fils qui avait 3 ans, ce qu'on avait dit à ma mère quand j'avais 3 ans. Donc c'était quand même assez étonnant. Et c'était plutôt « Ah, mais cet enfant va avoir des problèmes ». Ça avait beaucoup inquiété ma mère à l'époque. Moi, ça m'a un peu fait rire parce que j'ai pas osé dire à l'enseignante qu'il y avait pas des preuves de découpage à Polytechnique, mais je me suis retenu, quoi. Voilà, donc c'est le genre de situation. Après, quand le même est arrivé à l'école primaire à 6 ans, sa maîtresse me dit « Il est charmant, mais il pose des questions ». Donc, depuis ce jour-là, je questionne le système éducatif et moi, il se trouve que j'aidais des étudiants à faire des choses un peu originales, plutôt dans le supérieur. Mais en fait, je me suis rendu compte que à tous les âges, il y avait premièrement un système qui évoluait lentement par rapport au changement du monde. Et en tant que biologiste de l'évolution, parce que c'est une partie de ce que j'ai fait après mes études d'ingénieur, si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous risquez de devenir obsolète sans même vous en rendre compte. Et donc, si on veut que nos enfants soient préparés le mieux possible pour le monde de demain, qui est un monde toujours plus complexe, en tout cas toujours plus différent de celui que nous avons connu, on se doit de les préparer différemment. Et donc, à l'heure où les machines même apprennent, puisqu'on parle de machine learning pour parler d'intelligence artificielle, on a besoin de réfléchir toujours plus à qu'est-ce qu'un humain doit savoir qu'une machine ne sait pas. Ou qu'est-ce qu'un humain doit être capable de faire à l'heure où les machines apprennent. Et donc ça, c'est des choses qui pour moi sont des enjeux de société. Donc c'est presque en tant que citoyen, et pas seulement en tant que parent, que je me suis intéressé à ces sujets. Et puis il se trouve que comme j'ai travaillé sur la biologie de l'évolution, j'ai travaillé sur la coopération, sur les échanges d'informations, sur la manière dont ces choses-là coévoluent dans le vivant, et en fait, on voit bien que de manière quasi fractale, de manière distribuée à travers les niveaux de complexité, la capacité à apprendre les uns des autres est vraie à des niveaux très élémentaires et quelque chose de très naturel et qui est en même temps pas forcément au cœur du système éducatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ça peut être le cas sur le web, ça peut être le cas quand on regarde comment les humains apprennent dans des peuples qui n'ont pas forcément d'éducation formelle, on s'aperçoit que les apprentissages informels, les apprentissages de pair à pair, fonctionnent extrêmement bien. Et donc, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a un système si vertical ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre ? Ou est-ce que c'est le produit d'un héritage particulier ? Et éventuellement s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et il y a plein de gens qui ont fait des choses différentes. Maria Montessori est un bon exemple, évidemment. Mais Socrate avait mis le questionnement, par exemple, au cœur. Et donc, je pense que c'est typiquement le questionnement et l'esprit critique. C'est des choses qui sont nécessaires, mais pas forcément si au cœur. De même que les compétences du 21e siècle, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, la capacité à avoir de la compassion pour les autres, à comprendre ses propres émotions, à comprendre celles des autres, à comprendre, à se mettre en lien avec soi-même, en lien avec les autres, en lien avec la nature. Tout ça, c'est des questions qui, à mon avis, sont cœur. Et quand on voit l'éco-anxiété qui va croissant chez les jeunes, il y a 3/4 d'entre eux qui sont angoissés en s'interrogeant sur l'avenir. On se dit qu'il y a probablement des choses à faire et que l'école a un rôle probablement clé, quitte à ce qu'elle évolue et qu'elle se mette encore plus à l'écoute de cette génération et plus à les mettre en capacité de s'engager, de comprendre la complexité des enjeux et de se rendre compte qu'ils ont pas, ils sont pas forcément condamnés à subir. Ils peuvent devenir acteurs et auteurs de leur éducation et du monde de demain, plutôt que simplement passifs consommateurs de connaissances qu'on a préparées pour eux.
Et pourquoi le système met autant de temps à évoluer ?
Ça, c'est la question la plus difficile. Et j'ai pas vraiment de réponse, mais je pense qu'il y a probablement des réponses. Une d'entre elles, c'est que, en tant que parent, on a connu un système et qu'on est un peu surpris quand c'est pas le même système pour nos enfants. Et donc, on est soi-même un peu conservateur. Parce que s'ils font la même chose que nous, on pourra les aider. S'ils font pas la même chose que nous, ben, on est un peu incapable de les aider et c'est pas agréable et puis on s'inquiète pour eux et puis etc. Donc déjà, je pense qu'il y a une forme de conservatisme même chez les parents. Après, il peut y avoir une forme de syndrome de Stockholm. Je sais pas si vous connaissez ce syndrome, mais des gens qui ont subi un système peuvent y adhérer. Donc ça, je pense que ça contribue. Et je pense que chez les décideurs ou chez tous ceux qui ont réussi dans le système éducatif, il y a, si ce système éducatif a dit que vous étiez le meilleur, ben vous avez du mal à le critiquer parce que ça remettrait en cause votre statut. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui, pour des raisons différentes, ont intérêt à ce que le système ne change pas beaucoup. Et puis en plus, le système est super vertical et il est organisé pour être conservateur. Et par exemple, il n'investit pas dans sa propre R&D. Il n'investit même pas dans la formation continue des enseignants. Il n'investit pas dans le benchmark international. Et donc, n'importe quel autre ministère, santé, défense, agriculture, a des organismes de recherche, est ouvert à l'international pour se réinventer en permanence. Et a fortiori les entreprises. Mais bizarrement, même l'enseignement supérieur, les universités, elles font de la recherche sur plein de sujets, mais trop peu sur elles-mêmes. Et donc, il y a peu de réflexion et la formation continue, c'est pareil. Donc, en fait, à tous les âges, on a tendance à reproduire parce que par défaut, c'est plus simple. Il faut une vraie motivation pour essayer de penser différemment. Alors, c'est parce que on a souffert dans le système, ou nos enfants souffrent, ou parce que on a découvert autre chose en voyageant, ou parce que on se rend compte que le monde change, ou parce qu'on se rend compte que les technologies rendent les choses possibles, ou parce qu'il y a le Covid. Et typiquement, le Covid arrive, et là, tout d'un coup, presque du jour au lendemain, je dirais pas que tout change, mais enfin, on est forcé de faire changer des choses. Et on se rend compte aussi des limites de la techno. Mais tout d'un coup, on se rend compte que d'autres choses sont possibles. Oui, malheureusement. Et en particulier sur notre niveau moyen là-dessus, même le niveau de nos élites, et en plus sur nos inégalités. Et donc, on est très mal parce qu'on écrit liberté, égalité, fraternité, et puis on est persuadé qu'on a le meilleur système du monde et que ceux qui ont réussi dans ce système sont forcément les meilleurs du monde. Enfin, on a une côté où quand nos amis internationaux nous observent, ils savent qu'on n'est pas les champions du monde de l'humilité. Et donc, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Donc, quand on a vu ces classements, on s'est dit que le thermomètre était forcément cassé. Donc on a critiqué le classement sur le collège puis sur l'université. Mais on voit toujours plus de gens qui cherchent des alternatives, ceux qui ont les moyens en particulier cherchent des alternatives, qui éventuellement envoient leurs enfants dans les meilleures universités internationales plutôt qu'ici. Donc il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et à nouveau, je pense que c'est en partie un manque d'humilité et en partie se dire que c'est très difficile de remettre en cause le système qui nous a formés, puisque si on est très content de qui on est, ben, ce qui est le cas de ceux qui manquent un peu d'humilité, ils ont du mal à critiquer le système qui les a formés. Et puis je pense qu'il y a encore une autre dimension qui est de l'ordre de ce que disait Louis Ferdinand Céline en parlant de Semmelweis. Semmelweis, c'est un médecin et c'est le premier à avoir dit, quand on sort d'une salle d'autopsie et qu'on rentre dans une salle d'accouchement, entre les deux, vaut mieux se laver les mains. Ce qui paraît une évidence aujourd'hui, en particulier pour les femmes, évidemment. Mais à l'époque, aucun de ses collègues médecins n'a voulu le croire. Et donc, il est mort dans un asile psychiatrique, incompris. Et le seul médecin qui l'a cru s'est suicidé. Parce qu'en fait, il avait compris qu'il avait accouché exactement dans ces circonstances sa nièce préférée. Elle était morte. Et quand on a un proche qui meurt, on s'en veut toujours. Et là, en fait, il a compris que Semmelweis avait raison. Et en fait, ce que disait Semmelweis, c'est si vous l'avez les mains, vous sauverez des vies. Mais la contraposée logique, c'est si vous l'avez pas des mains, vous avez des morts sur la conscience. Et en fait, ses collègues voulaient pas entendre ça. Parce que consciemment ou inconsciemment, je pense que c'était essentiellement inconsciemment, c'était insupportable. En plus, l'autopsie, c'était le symbole de la modernité. Donc, il y avait un vrai sujet par rapport à ça. Et si on transpose au monde éducatif, si vous dites à des enseignants que ça fait des décennies qu'on pourrait enseigner autrement et qu'ils l'ont pas fait, ben ça suppose qu'ils ont pas forcément fait ce qu'il y avait de mieux pour leurs élèves. Et c'est pas forcément agréable à entendre, donc ça peut les braquer. Donc moi, je tendance à pas du tout avoir ce discours, mais à dire le monde de demain est tellement différent de celui que nous avons connu que même si on avait été parfait jusqu'à hier, qui est discutable par ailleurs, mais même si on avait été parfait jusqu'à hier, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour demain. Et donc, prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Et ça, je pense que c'est une discussion fondamentale qu'on peut avoir avec les jeunes, avec les profs, avec l'ensemble des acteurs, les parents, l'ensemble de l'écosystème. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait tous les pays qui se sont transformés. C'est en se demandant qu'est-ce qu'ils voulaient pour demain. Et encore une fois, il y avait plein de bonnes raisons. Et je pense que, par exemple, à la Révolution française, on avait peut-être le meilleur système parce que décider de former des élites à la fin du XVIIIe siècle sur la science en créant l'école normale, l'école polytechnique, c'était très novateur. Mais le problème, c'est que ce système a relativement peu évolué. Et donc, forcément, un truc qui était très bien au XVIIIe, mais pas forcément complètement adapté au XXIe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, quel est le meilleur par continent. Le Canada, c'est le meilleur de l'Amérique nord et sud confondu. La Finlande, c'est le meilleur en Europe. Et Singapour, c'est le meilleur en Asie. Donc, c'est quand même des cultures très différentes. Mais en fait, ils ont convergé. Ils avaient des systèmes très proches du nôtre, historiquement. Et indépendamment les uns des autres, ils ont convergé vers un système qui met les compétences du XXIe siècle au cœur, dont la créativité, la coopération, mais aussi les projets des jeunes. Et même un pays comme Taïwan qui s'est transformé encore plus récemment est aussi sur cette logique. Et c'est des pays qui sont, encore une fois, avec des cultures très différentes, mais des cultures qui se sont rendu compte que il fallait proposer aux jeunes des défis et les aider à relever les défis de notre temps, qui peuvent être des défis personnels, des défis locaux ou des défis globaux, et faire d'eux pas simplement des gens qui passent des examens, avec plus ou moins de brio, et en l'occurrence quand on les teste au niveau international c'est avec brio, mais que on pouvait les aider. Et puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que au-delà de ces premiers de la classe, par exemple la Fondation Lego a repéré une école qui prépare le mieux d'après eux au XXIe siècle, et il se trouve que cette école est en Haïti. Donc si on se dit que la meilleure école du monde n'est pas ni en Finlande, ni au Canada, ni à Singapour, ni dans le quartier latin, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément dans le pays le plus fortuné. Donc c'est pas tant l'argent qu'on investit, même si mettre de l'argent aide à ce que ça se passe bien, que le fait de changer l'organisation. Donc dans cette école, ils ont décidé d'inviter les enfants de 6 à 18 ans à relever des défis et pendant au moins une partie de l'année. Et donc ça leur permet de savoir pourquoi ils apprennent. En fait, ça les aide à trouver du sens dans leurs apprentissages. Donc à 6 ans, ça peut être apprendre à planter une graine, ce qui est déjà un défi pas inintéressant pour contribuer au reboisement ou autre. À 12 ans, ça peut être apprendre à coder un serveur de SMS parce que les SMS, c'est bien, mais ça coûte cher. Et à 18 ans, ça peut être créer un réseau de détecteurs d'ondes sismiques parce que les tremblements de terre, décidément, quand on vit en Haïti, c'est une menace et qu'on a envie de comprendre et idéalement pouvoir faire de la prévention sur ces sujets.
Et en sachant tout ça, comment est-ce que vous avez fait en tant que père avec vos enfants, si c'est pas indiscret?
Alors c'est bizarre parce que en fait quand la maîtresse a posé cette question à mon fils, enfin m'a dit ça sur mon fils, je lui ai demandé s'il voulait changer d'école et en fait il n'a pas voulu parce qu'il était avec ses copains et donc en fait mes enfants sont restés dans l'école publique du quartier et ils m'entendaient raconter plein de choses sur eux. Et éventuellement ils découvraient des choses parce qu'on voyageait, parce que pendant l'été on organisait des festivals, ils pouvaient découvrir d'autres choses. Je me souviens de mon fils quand on avait créé un festival à l'école normale supérieure où on avait fait venir des jeunes de banlieue qui rencontraient des chercheurs et qui découvraient la gastronomie moléculaire ou mille et un ateliers scientifiques inspirants. La première fois qu'on a fait ça, il a dit: ah, c'est trop bien, mais ça dure trop peu de temps. Quand je serai grand, je voudrais que ça dure tout l'été. Ça va durer quelques jours. Donc ça, c'était plutôt sympa. Bon, mes enfants sont ingénieurs aujourd'hui. Mon fils est en doctorat. Ils ont exploré plein de choses. Par exemple, ma fille a refusé de choisir entre le sport et les études. Mais ça l'a pas du tout empêché de réussir dans le sport et dans les études. Alors qu'il y avait plein de gens qui lui disaient, soit tu fais sport-études, soit tu peux faire de la science, mais tu pourras pas faire les deux. Mais elle disait, mais aux États-Unis, si je suis bon en sport, je peux avoir des places réservées dans les meilleures universités. Donc, pourquoi est-ce que vous me dites que c'est antagoniste? Donc, il y a effectivement une culture et donc je pense que ça les a peut-être aidés à penser un peu différemment et même s'ils ont fait des choses relativement classiques in fine, à le faire en peut-être plus en connaissance de cause et en acceptant ce qui était acceptable et en critiquant ce qui méritait de l'être.
Parce que c'est ce que j'allais dire, vous leur avez peut-être transmis une vision différente de la réussite aussi.
Oui, je crois que même s'ils ont aussi contribué à des réussites assez classiques, ils n'ont pas tout sacrifié pour ça. Par exemple, mon fils, quand il était en prépa, m'a dit, il avait invité ses copains pour son anniversaire, et on était là, et il leur a dit que c'était la meilleure année de sa vie. Moi, j'aurais pas dit que mon année de prépa était la meilleure année de ma vie. Donc il avait su ne pas tout sacrifier à sa prépa, par exemple. Et donc ça, je pense que c'est des choses importantes. Trouver son équilibre. Et c'est pas moi qui les ai poussés à faire ces écoles, mais c'est quelque part le collectif auquel ils appartenaient. Et à la fois, ils jouaient les règles du jeu de ce collectif, et en même temps, ils le faisaient avec peut-être un pas de décalage qui les aidait à savoir pourquoi ils le faisaient. Ils se sentaient pas nécessairement obligés de le faire juste parce que il fallait le faire, quoi.
Si on revient à votre vision de l'apprendre au 21e siècle, vous parlez de plusieurs choses et vous parlez notamment de croiser plus de regards et notamment ceux des jeunes, les enfants. Comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux écouter les enfants pour revoir notre système éducatif?
Alors en fait, tout ce qu'on a fait ici, on l'a co-designé avec des jeunes. Et c'est quand même intéressant parce que on a démarré sur une petite table dans la salle café de mon labo et aujourd'hui on a 7000 mètres carrés. Et en fait, tout ce qui a grandi s'est fait en le co-designant avec des jeunes pour des jeunes. Et donc plutôt pour des étudiants initialement, mais on s'est rendu compte que les méthodes qu'on avait développées fonctionnaient en fait à tous les âges de la vie. Et c'est assez naturel parce que entre-temps, on s'est rendu compte que, par exemple, les plus jeunes sous-sœurs de publications scientifiques ont 8 ans, et on s'est rendu compte que C'est Alison Gopnik qui l'a montré à Berkeley, qu'on est tous nés chercheurs. On est tous nés capables de curiosité, d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire comme ça qu'on a appris à parler, à marcher et à faire plein de choses pour lesquelles on n'a pas eu un cours d'amphi sur la marche ou la parole. Donc on voit bien qu'on peut apprendre plein de choses et à une vitesse incroyable, parce que quand on regarde un enfant acquérir de nouvelles capacités, c'est très impressionnant. Et donc cette capacité à explorer, et donc si on écoute le questionnement des enfants, si on les aide à transformer ce questionnement qui peut être enfantin en un questionnement scientifique ou en un questionnement même philosophique, on s'aperçoit qu'en leur apportant des méthodes, ils peuvent utiliser ces méthodes pour aller extrêmement loin, faire des choses extrêmement pertinentes. On peut les aider, par exemple, donc le projet que je viens de décrire sur l'apprentissage par la recherche, c'est ce que nous on a appelé les aventuriers. Il y a un autre projet qui m'intéresse beaucoup en France qui s'appelle Bâtisseur de possibles, en anglais ça s'appelle Design for Change, et c'est basé sur quatre principes très simples. C'est feel, imagine, do and share. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est la cause qui nous touche? Être capable de l'exprimer, c'est déjà pas rien, c'est pas tout à fait classique dans notre système. Être capable d'imaginer une solution correspondant au problème que l'on ressent comme crucial, et être capable de la mettre en œuvre et de documenter et de partager ce qu'on a fait. Ces quatre étapes-là, j'ai vu des enfants de 4 ans le faire et j'ai vu des gens à tous les niveaux le faire, et c'est intéressant parce que c'est ces quatre étapes qui sont fondamentalement au service du care, au service de prendre soin de causes qui nous touchent et de d'émotions qui nous mettent en mouvement. C'est ça l'étymologie d'émotion. Et apprendre non pas à nier ses émotions, à les laisser de côté dans une logique très cartésienne, mais apprendre à les écouter pour en faire un moteur et une envie d'avancer, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important.
Vous avez aussi parlé tout à l'heure de l'importance de l'apprentissage des soft skills, créativité, confiance en soi, esprit critique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus sur pourquoi c'est si essentiel de le remettre au centre de nos apprentissages aujourd'hui, dès le plus jeune âge?
Typiquement, c'est des choses que les machines ne font pas. Donc déjà, rien que ça, c'est peut-être une des raisons de le faire. Donc c'est à la fois des compétences du 21e siècle, mais on peut dire que de tous les siècles. Mais si c'est plus important au 21e siècle, c'est parce que les machines ne le font pas. Et parce que d'autres choses du genre apprendre à compter et mémoriser, c'est pas que ce soit inutile, mais si c'est le centre de ce qu'on fait, on s'aperçoit que les machines mémorisent mieux que nous et calculent mieux que nous. Donc ça, il faut en faire suffisamment pour comprendre comment une machine mémorise et comment elle calcule, et puis pour savoir faire un nombre de choses par soi-même. Mais on voit bien que la liste des priorités d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne sera pas forcément les mêmes. Les compétences les plus recherchées hier, aujourd'hui et demain ne sont pas les mêmes. Et donc, comment est-ce qu'on acquiert ces compétences? Je pense que c'est des questions extrêmement clés. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans des pédagogies du défi, en particulier du défi porté par les jeunes eux-mêmes, en fait, les soft skills sont naturellement mobilisés. Et donc, c'est pas, on va vous faire un cours aujourd'hui sur la créativité, ou un cours sur la curiosité, ou un cours sur l'esprit critique, ou un cours sur l'empathie, ou un cours sur la coopération. Non. C'est, vous allez avoir besoin de mobiliser ces compétences. Au passage, on peut vous expliquer comment ça fonctionne, on peut vous dire comment fonctionne votre propre cerveau, comment fonctionnent vos émotions, pourquoi est-ce que vous pouvez être submergé par vos émotions et vous sentir paralysé à des moments, ou on peut vous expliquer que si vous dormez pas suffisamment, vous allez pas pouvoir mémoriser, ou vous allez être plus irritable, enfin, et ça vous allez avoir des problèmes de santé, y compris d'obésité, enfin, on peut les aider à comprendre, en fait, qui nous sommes, qui sont-ils, et on peut les aider à comprendre d'où on vient. Et d'où on vient depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, il y a une longue histoire. Mais je dirais que toutes les civilisations ont eu leur mythe fondateur. Nous, on a la chance de pouvoir avoir, si ce n'est des mythes fondateurs, du moins des récits fondateurs qui sont en l'occurrence plus basés sur la science, ce qui est probablement beaucoup mieux, en tout cas pour un scientifique, mais je pense même au-delà. Parce que si on a bien compris d'où on vient et qu'on a bien compris où on est, alors on peut se projeter sur où on va. Et ces récits qui combinent ce qu'on appelle la big history, donc à la fois les récits du monde physique, du monde chimique, du monde biologique, du monde humain, du monde de la culture, de la technologie, tout ça c'est des récits qui doivent être emboîtés. C'est pas des disciplines séparées, c'est différents regards sur une longue histoire. Et comprendre que tout ça c'est cohérent, et que si on veut comprendre, encore une fois, d'où on vient, où on est, pour penser où on va, on a besoin de ça. Parce qu'on a besoin de comprendre la trajectoire sur laquelle on est si on veut pouvoir l'influencer. Et si par exemple on pense qu'on va dans le mur, ce qui est toujours plus le cas sur le changement climatique, eh ben si on comprend d'où ça vient, on a peut-être plus de chances de pouvoir influencer la trajectoire.
Et vous parlez aussi de l'importance de l'intelligence collective. J'aimerais bien que vous réexpliquiez ce terme et comment il peut se transparaître dans l'éducation qu'on offre à nos enfants.
Alors, l'intelligence collective, elle a beaucoup de manifestations, mais assez fondamentalement, par exemple en science, on dit que pour voir loin, il faut avoir gravi des épaules de géants. Et donc, on voit bien que, et ça, Newton le disait, Pascal le disait, tous les chercheurs qui ont un minimum d'humilité le disent. Et forcément, aucun d'entre nous n'est capable de faire plein de choses tout seul. Mais c'est en Afrique, on dit il faut un village pour élever un enfant. Mais à l'inverse, l'enfant qui a été élevé par un village entier a cette philosophie de type Ubuntu, qui est une philosophie de « je suis parce que nous sommes, parce que vous m'avez aidé ». Et donc, à mon tour, je peux contribuer. Donc, le collectif, c'est un des aspects essentiels de l'humanité. C'est notre capacité à faire ensemble qui fait la différence. On n'est pas beaucoup plus fort que n'importe quel autre primate. On est moins agile de plein de manières, mais par contre, on est capable, par le langage, par la culture, de nous associer pour faire des choses qui sont sans précédent dans l'histoire du vivant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et cette intelligence collective, elle a plein d'incarnations. Par exemple, Wikipédia, c'est typiquement un produit de l'intelligence collective. Mais la première encyclopédie de Didon d'Alembert, c'était déjà une preuve d'intelligence collective comme l'ensemble des connaissances qui ont été accumulées depuis des siècles. La question, c'est comment est-ce qu'on bénéficie de cette intelligence collective et comment on peut y contribuer. Donc, si vous prenez par exemple l'encyclopédie pour enfants qui s'appelle Wikidia, qui est le pendant pour enfants de Wikipédia, même si je trouve que Wikipédia devrait lui rendre plus hommage et lui donner plus de visibilité, ce qui est encore un autre sujet, apprendre à l'utiliser. Donc, moi, je me souviens de ma fille à 7 ans être fascinée par les baleines et les dauphins. Donc, on était à la bibliothèque du coin, elle avait lu tout ce qu'elle avait trouvé, et puis elle voulait en savoir plus. Donc, on est allé sur le web pour essayer de chercher ensemble des choses. Elle a découvert Wikidia, elle a lu, et elle me dit, mais il y a une erreur. Et je lui dis, ah bon? Et elle me dit, bah oui, j'ai lu dans un livre quelque chose qui est contradictoire avec ce qu'il y a écrit là sur l'alimentation des baleines. Et je lui dis, bah si tu veux, tu peux éditer la page. Et donc, qu'à 7 ans, on comprenne qu'on peut contribuer à cette forme d'intelligence collective qu'est une encyclopédie collaborative, je pense que c'est extrêmement important. Donc, elle en a bénéficié parce qu'elle a appris des choses. Et puis, l'année d'après, elle a créé sa page sur les orques. Et c'est trop sympa. Et donc, je pense qu'il y a une capacité des jeunes à très vite à s'approprier ces outils et à se rendre compte qu'ils peuvent être, encore une fois, acteurs et auteurs de leurs propres apprentissages et même de cette intelligence collective.
Vous avez des exemples d'écoles où, justement, cette application de l'intelligence collective est particulièrement forte et particulièrement inspirante pour notre système ?
Ben, disons qu'il y a plein d'endroits, mais par exemple Taïwan, que je cite trop vite tout à l'heure, est un pays intéressant parce qu'ils invitent les jeunes à se mettre en mode défi. Et par exemple, ils sont intéressés au défi de la pollution, puisque c'est un vrai problème dans plein d'endroits. Et chez nous, il y a plein de morts et chez eux aussi. Et en fait, ils se sont demandé, est-ce que la pollution, d'où elle vient ? Est-ce qu'elle vient de Chine populaire ? Est-ce qu'elle vient de l'usine d'à côté ? Est-ce qu'elle vient des voitures ? Est-ce qu'elle vient de la ville encore plus loin, etc. Et en fait, ils ont, à propos d'intelligence collective, ils ont créé des capteurs. Ils ont utilisé des capteurs et ils ont fait un réseau de capteurs. Et ils ont travaillé avec l'équivalent du Météo France taïwanais et de l'équivalent de l'INRIA et du centre de calcul. Et ils ont modélisé les flux d'air et les flux de pollution pour répondre à la question d'où vient la pollution. Mais ils n'auraient pas pu le faire seuls, parce qu'avec un seul capteur, on ne peut pas modéliser tout ça. Et ils n'auraient pas pu le faire sans des adultes qui ont contribué, mais les adultes n'auraient pas pu le faire sans leur capacité à créer ce réseau de capteurs et à avoir des données venant d'un peu partout. Et donc, ils ont contribué à un projet de recherche participative que je trouve hyper intéressant et qui les a impliqués dans des formes d'intelligence collective où ils peuvent, encore une fois, utiliser la science, l'esprit critique, les technologies pour répondre à une question qui les touche, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on a de l'air pollué autour de nous.
Si on dézoome un peu sur les enfants et qu'on pense à notre société, vous prenez une société apprenante. J'aimerais bien que vous expliquiez ce thème et pourquoi c'est essentiel qu'on s'inscrive aujourd'hui dans une société apprenante.
Donc on a dit qu'on était apprenant tout au long de la vie. À tous les âges, on peut apprendre. On a tous appris à faire face au Covid d'une manière ou d'une autre. On a tous appris à faire plein de choses pour s'adapter à nos métiers qui changent, à nos vies qui changent, etc. Donc ça, on apprend à tous les âges, comme des individus, mais aussi en tant qu'organisation, en tant que collectif. Et donc, par exemple, quand on a appris, je sais pas moi, à communiquer en utilisant des logiciels de visioconférence, on l'a appris collectivement, ne serait-ce que pouvoir communiquer avec ses proches ou avec d'autres pour faire ensemble des choses qu'on ne pouvait plus faire en face à face. Donc, on a tous appris à faire face individuellement et collectivement. Et en fait, donc les collectifs apprenants, c'est des collectifs où les individus apprennent, mais le collectif fonctionne différemment parce qu'il utilise une nouvelle méthode, une nouvelle technologie. Et si on développe en plus la réflexivité, donc ce qu'on sait, c'est vrai des individus, c'est aussi vrai des collectifs et des organisations. La meilleure manière d'apprendre à apprendre, c'est d'être réflexif sur ses apprentissages. Et donc de prendre conscience de comment fonctionne son cerveau, de comment fonctionnent les outils, de comment fonctionne notre organisation. Est-ce qu'on pourrait faire différemment? Est-ce qu'on peut célébrer ce qu'on a déjà su faire? Mais on pourrait aussi se demander qu'est-ce qu'on voudrait faire de différent. Donc ça, c'est une première étape. Et donc, une société apprenante, c'est une société où, à tous les échelles de la société, de l'individu aux collectifs locaux, aux collectifs nationaux, voire aux collectifs internationaux, d'où l'idée de planète apprenante qui est l'étape encore d'après. Une société apprenante, c'est une société qui apprend d'autres sociétés. C'est une société qui s'interroge, qui investit par exemple sur comment est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'on apprend comme hier? Est-ce qu'il y a de nouvelles manières d'apprendre? Est-ce que certaines sont à promouvoir? Est-ce que certaines sont plus adaptées dans certains contextes que dans d'autres? Est-ce que ça doit être un service public? Est-ce que ça doit être privatisé? Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser là-dessus. Et donc, c'est une société qui investit dans comment on apprend, pourquoi est-ce qu'on apprend et y a-t-il de nouvelles manières d'apprendre. Et typiquement, c'est une société qui fait de la R&D sur les apprentissages à tous les âges de la vie, ce que ne fait pas suffisamment la société française par défaut.
C'est parce que j'ai l'impression que l'apprentissage reste un privilège qui cible uniquement les enfants et qu'à partir de la fin des études supérieures, nos apprentissages se limitent quand même beaucoup à la sphère professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez justement sur ce côté lifelong learning, le fait d'apprendre toute la vie?
Disons que j'ai fait partie d'un groupe de travail autour de l'UNESCO sur l'idée que ça devrait être un nouveau droit de l'homme. Et ça, je pense que c'est vrai. Et on devrait pouvoir investir à titre personnel, professionnel, dans nos apprentissages et pouvoir retourner à l'université, pouvoir retourner éventuellement dans d'autres modalités d'apprentissage qui nous conviennent mieux. Et donc le compte personnel de formation est un pas dans ce sens-là en France, mais à nouveau, est-ce que, par exemple, moi j'apprends en lisant Wikipédia ou en lisant mon journal préféré ou en écoutant la radio ou un podcast, mais je peux pas dépenser mon compte personnel de formation à cet endroit-là. Donc en soi, on pourrait s'interroger, puisque si j'apprends des choses qui me sont utiles à la fois personnellement et professionnellement, pourquoi pas? Ça serait une autre manière de créer des incitations pour créer des contenus de qualité. Donc ça, je pense que ça serait intéressant, ne serait-ce que pour le monde des médias, ce qui n'est pas rien, parce qu'ils ont du mal à trouver un modèle économique dans l'économie des plateformes et l'économie de l'attention qui est la nôtre aujourd'hui. Donc ça, c'est à mon avis un point important. Mais plus généralement, je pense que cet apprentissage tout au long de la vie, il y a de plus en plus de boîtes qui se rendent compte que c'est un facteur limitant. Et au niveau de l'économie dans son ensemble, il y a par exemple, on nous parle des métiers de demain, on nous dit qu'il y a des métiers d'avenir, des entreprises d'industrie d'avenir, etc. Mais qui va inventer ces métiers et où est-ce qu'on va se former à ces métiers et qui va inventer les formations de demain? Et donc, si on n'investit pas dans cette R&D, on voit bien qu'on a un problème. Donc, la prise de conscience progresse. Il y a maintenant, par exemple, des appels d'offres du secrétariat pour l'investissement qui s'appellent compétences et métiers d'avenir, qui sont en route. Mais il faut le faire à tous les âges, il faut le faire pour tous les secteurs d'activité, y compris pour le développement de notre envie de résoudre nos propres défis personnels. Et donc là, il y a besoin de créer des collectifs et de créer des contenus de qualité pour faire face. En particulier, il y a une telle accélération des transformations. On nous parle de la transition écologique, de la transition digitale, de la transition démocratique. Voilà, il y a énormément de transitions à vivre en même temps. ben, si on n'apprend pas les uns des autres et des meilleures manières de le faire en France et à l'international, on voit bien qu'on a beaucoup moins de chances de réussir cette transition.
On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aimerais quand même que vous expliquiez à nos auditeurs ce que fait le Learning Planet Institute.
Alors, ce que nous faisons, c'est que, en fait, notre mission, c'est d'aider les individus et les collectifs à relever les défis de notre temps. Et pour ça, on se dit qu'il faut qu'individuellement et collectivement, on apprenne à apprendre, qu'on apprenne à relever ces défis, qu'on apprenne à mobiliser l'intelligence collective, qu'on apprenne à faire de la recherche autrement et qu'on soit capable ensemble de faire un certain nombre d'activités. Donc nous, on a une activité de R&D sur ces sujets. En particulier, on développe de l'intelligence artificielle, on développe un GPS de la connaissance, on développe des outils numériques, on développe des programmes de formation pour ceux qui veulent penser différemment, explorer différemment, relever ces défis différemment. Nous, ce qu'on appelle des game changers, donc des acteurs de changement. Comment est-ce qu'on peut les former? Quels nouveaux diplômes on peut créer? Comment on peut les co-designer avec les jeunes eux-mêmes? Donc, ça, c'est ce qu'on fait en activité d'enseignement et en activité de recherche. On accompagne les organisations qui veulent se transformer, qui peuvent être des organisations publiques, des organisations privées, des philanthropes, il y a tout un tas d'acteurs qui se rendent compte que le monde change plus vite que leur capacité institutionnelle à s'adapter et qui ont donc besoin de devenir des organisations apprenantes, des organisations où on se pose ce genre de questions, on apprend les uns des autres, on regarde s'il y a de nouvelles méthodes qui peuvent nous aider à être plus agiles et plus adaptés ou plus adaptables en tout cas. Et puis, on a aussi créé un réseau international qui s'appelle Learning Planet Alliance, qui est donc une alliance à travers la planète de tous ceux qui veulent contribuer à apprendre, à prendre soin de soi, à prendre soin des autres et à prendre soin de la planète. Et on voit bien que sur ce genre de sujet, on a tous intérêt qu'on soit tous un peu meilleurs. Et donc, on n'est pas en compétition, alors que la compétition scolaire est quand même le modèle un peu dominant et... En fait, la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on passe d'un modèle où on est en compétition sur les savoirs d'hier à un modèle où on peut coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour inventer le monde de demain. Et comment est-ce que, au moment où on a besoin, on peut accéder à une information pertinente et comment est-ce qu'on peut apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter individuellement et collectivement. Donc c'est vraiment ça sur lequel on essaie de se centrer. Et c'est ce qu'on fait depuis 18 ans. Donc, on a démarré tout petit, hein, autour d'une petite table. Et puis maintenant, on a 7000 mètres carrés. On a doublé taille tous les 18 mois. Et on essaye maintenant d'accompagner non seulement les gens qui sont dans ces murs, mais ceux qui souhaitent faire ce genre de choses ailleurs. Et parce que on va pas continuer à croître dans l'espace physique. Oui. Par contre, si on développe des outils, des méthodes, si on les rend accessibles à toujours plus de gens, si on forme les formateurs, si on forme ceux qui pensent la formation initiale, la formation continue dans les universités, dans les écoles, etc., on peut avoir plus d'impact. Donc on essaye d'être à l'écoute de ceux qui veulent changer. Donc on n'est pas du tout prosélyte en disant il faut faire ça, mais on dit si vous voulez le faire et que ça vous intéresse, ben, venez en discuter et plus si affinité.
J'ai une toute dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste sur le changement de notre système éducatif?
Alors moi, j'essaie d'être mélioriste. Donc le mélioriste, c'est celui qui cherche à améliorer les choses, indépendamment de la manière, de la trajectoire dans laquelle on est. Voilà, je fais ce que je peux face aux changements planétaires et aux difficultés qu'on peut avoir localement. Je pense qu'on peut être pessimiste ou optimiste, mais disons que c'est si c'est uniquement une attitude de toute lumière tout ira bien ou de toute lumière tout est foutu, dans un cas comme dans l'autre on fait rien en fait.
Ouais.
Donc à mon avis c'est pas la bonne attitude. Donc je préfère être mélioriste en me disant je sais pas ce que le monde serait si je n'y mettais pas mon grain de sel, mais j'essaie de mettre mon grain de sel au bon endroit pour augmenter la saveur du plat grosso modo. Et donc c'est un peu ça la stratégie du mélioriste. C'est aussi une stratégie stoïcienne au sens de faire ce qu'on peut pour changer ce qui mérite de l'être, accepter avec autant de sérénité que possible ce qu'on peut pas changer et essayer d'avoir un minimum de sagesse pour distinguer ces deux sujets, quoi. Donc c'est ce que Marc Aurèle essayait de faire, et à ma manière j'essaye de le faire aussi, mais c'est vrai que ce qu'on peut faire et ce qu'on peut changer dépend de savoir si on est seul à vouloir changer ou si on sait appartenir à un collectif dans lequel on peut contribuer à changer des choses qu'on ne saurait pas changer seul. Donc on est dans un contexte historique dans lequel il y a par exemple un grand débat sur l'école qui va sortir, en tout cas c'est ce qu'on nous promet. Il y a tout un tas d'acteurs qui se disent que effectivement maintenant il faudrait que ça change. Donc je pense que si suffisamment de gouttes d'eau se rejoignent, il peut y avoir des ruisseaux, peut-être même des rivières et des fleuves, et donc de l'impact.
Super. Et ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup François pour votre temps, c'était passionnant.
Merci à vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.